Le journal, Aurélie Kiefer, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Dorian a causé des dégâts sans précédent aux Bahamas. L'ouragan semble maintenant faiblir. On fait le point avec Grégory Phillips dans un instant. Au Burkina Faso, les généraux accusés d'être les cerveaux du coup d'État manqué de 2015 sont condamnés à 10 et 20 ans de prison. Nous joindrons Fanny Noiro à Ouagadougou. La deuxième compagnie française aérienne en grande difficulté, Aigle Azur, demande son placement en redressement judiciaire dans l'espoir de trouver des repreneurs. Explication de Catherine Pétillon. Et puis rentrée stressante pour les élèves de première. Pour eux, plus de séries S, ES ou L, mais des enseignements de spécialité. Et les jeunes lycéens se posent encore beaucoup de questions. Reportage à Montdidier dans la Somme. L'ouragan Dorian faiblit, il vient de repasser en catégorie 4, mais les vents enregistrés jusqu'à présent ont été extrêmement puissants avec des pointes à 325 km/h et les Bahamas sont encore dans la tourmente. Grégory Phillips, vous suivez pour nous la progression de cet ouragan d'une puissance exceptionnelle. Selon le premier ministre de l'archipel, Dorian a provoqué des dégâts sans précédent sur les îles Abacos, Grégory.
Oui, c'est sur le réseau social Twitter que le Premier ministre Hubert Minis a adressé ce premier bilan et parle donc de destruction sans précédent, principalement sur l'île d'Abaco, qui se trouve dans le nord de l'archipel. Alors en vérité, ce bilan correspond bien aux rares images qui ont pu nous parvenir, celles de maisons arrachées, d'inondations par endroits, l'eau a grimpé à 6 ou 7 mètres, et des images aussi d'habitants terrorisés, cloîtrés chez eux ou dans des refuges. La Croix-Rouge avance le chiffre de 13 000 maisons abîmées ou détruites, ce qui va nécessiter dans les prochaines heures ou prochains jours construction d'abris, l'envoi d'eau potable et de moyens sanitaires. Pas de bilan humain pour l'instant, même si les médias locaux évoquent la mort d'un petit garçon de 8 ans. Alors qu'il est Dorian stagne sur le nord de l'archipel, sur l'île de Grand Bahama. Il avance très lentement, quasiment à l'arrêt, 1,5 km par heure, ce qui évidemment accentue encore son côté dévastateur. Et la population des Bahamas est appelée à rester confinée dans les abris ou les maisons, sans doute encore pendant plusieurs heures.
Alors Grégory, les États-Unis sont également en alerte. Est-ce qu'ils sont encore menacés ?
Oui, après les Bahamas, l'ouragan va se diriger vers les côtes américaines. Alors les toutes dernières prévisions météo disent qu'a priori Dorian va se contenter, si je puis dire, de longer la Floride et donc de ne pas aller frapper directement les terres. Normalement, ça ce sera demain après-midi ou demain soir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup de pluie et des vents violents, mais la Floride serait relativement épargnée. Ensuite, l'ouragan devrait remonter du sud vers le nord, vers la Géorgie et les deux Carolines, qu'il pourrait approcher ou atteindre vendredi, mais sans doute rétrogradé là au niveau 2. Donc vous voyez, les États-Unis sont dans l'attente, mais malgré tout, les autorités de Floride, de Géorgie et de Caroline du Sud ont ordonné l'évacuation de plusieurs comtés situés sur le littoral par mesure de précaution.
Grégory Phillips en direct de Washington. Le gouvernement argentin annonce des mesures de restriction de change pour affronter la crise. 3 semaines après la défaite du président Mauricio Macri aux élections primaires et la forte dévaluation, le gouvernement tente de freiner la fuite de capitaux et la panique financière. Hier soir, à travers un décret d'urgence, le nouveau ministre de l'économie a annoncé le contrôle des changes de pesos à dollars, une disposition qui avait été mise en place lors du gouvernement des Kirchner et alors fortement critiquée par Mauricio Macri. Aujourd'hui, le ministère avoue que ce sont des mesures gênantes mais nécessaires pour éviter le pire. La correspondance de Caroline Vic à Buenos Aires.
Le gouvernement s'est retrouvé au pied du mur, 4 ans après le début de son mandat et la fin de tout type de régulation financière et monétaire. Et face à une demande de dollars en hausse ces derniers mois, la Banque centrale s'est vue obligée de répondre par une vente de devises étrangères compulsive, ce qui a entraîné une pénurie de dollars. Et pour contenir cette fuite massive, le gouvernement a dû prendre des mesures restrictives. Pour les particuliers, l'achat est restreint à 10 000 dollars par mois, ce qui touche tout de même une minorité d'Argentins puisque le salaire minimum s'élève à 200 dollars par mois. Pour les entreprises, le contrôle est plus contraignant. Les virements à l'étranger sont interdits. Les exportateurs ont l'obligation de changer tous leurs pesos en dollars cette semaine. Et acheter des devises étrangères n'est plus autorisé, sauf si ces dollars sont utilisés pour un quelconque financement ou un paiement de dette. Le ministre de l'économie, Hernán Lacunza, a déclaré qu'il voulait éviter le naufrage et ramener le navire au port, coûte que coûte. Mais les petits épargnants ont tout de même la sensation d'être à bord du Titanic et ont peur de revenir à la crise de 2001 lorsqu'on leur a interdit d'accéder à leur argent. Mais le gouvernement assure que cela n'arrivera pas, que ces mesures sont nécessaires et qu'elles devraient être suffisantes pour éviter l'explosion économique et sociale, pour calmer les marchés et pour éviter de nouveaux sursauts jusqu'à la fin du mandat de Macri le 10 décembre.
En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte doit présenter son nouveau gouvernement après-demain au plus tard pour mettre un terme à la crise politique qui secoue le pays. Un gouvernement scellant une alliance inédite entre les 5 étoiles et les démocrates de centre-gauche. Le mouvement 5 étoiles, populiste et anti-système, a beaucoup souffert de sa première expérience gouvernementale avec la Ligue de Matteo Salvini. Il ne triomphe pas non plus dans les villes dont il a la charge, Rome, mais aussi Turin, où le bilan de mi-mandat est plus que mitigé. Écoutez le reportage d'Isabelle Labéry.
Porta Palazzo, le plus grand marché d'Europe.
Questa Italia Margherita.
Antonella vante ici depuis 46 ans.
Cosa hanno fatto i 5 stelle? Niente.
Ce qu'ils ont fait, les 5 étoiles? Rien. Ils font rien pour nous. C'est pire qu'avant.
La mère Chiara Appendino s'était engagée à maîtriser l'expansion des supermarchés pour protéger le petit commerce. Antonella s'offusque.
Là où j'habite, à côté de la Juventus, ils ont ouvert cette année. Banco Fresco, Eurospin, Lidl, Acqua e Sapone, il y en a au moins 6 ou 7. Et sur le marché, au lieu de nous aider, la mère, elle donne des licences pour rien aux immigrés. Ce stand, moi je l'ai acheté en 75, je peux même plus le revendre parce qu'il n'y a plus que des étrangers à qui on demande seulement 11 euros par jour. Le seul qui a fait quelque chose, c'est Salvini, lui au moins il agit.
À ses débuts, Chiara Appendino était pourtant la maire la plus populaire d'Italie. Mais les scandales se sont accumulés, procès pour négligence après une bousculade mortelle, démission d'un porte-parole, départ fracassant du salon de l'auto... Pour le patron local des démocrates, Stefano Lorusso, les 5 étoiles brillent surtout par leur incompétence.
Une administration qui est de fait...
Cette administration n'a aucune vision. Elle a vécu au jour le jour et elle a fait perdre à la ville énormément d'opportunités.
Depuis l'hôtel de ville, un palais du XVIe siècle, Chiara Appendino défend son bilan, renouvellement de la flotte de bus, extension des pistes cyclables et confirme son opposition au trop grand projet.
Nous sommes l'une des villes les plus endettées d'Italie. J'ai décidé d'assainir les comptes. Dans 3 ans, à la fin de mon mandat, je laisserai une ville qui sera revenue à l'équilibre. Mais maintenant, ce n'est pas possible. Et je dois aussi faire des coupes budgétaires. Est-ce que ça fait consensus? Probablement non. Est-ce que c'est juste? Pour moi, oui.
La ville pourtant n'est plus présentée comme la vitrine du mouvement. Aux législatives l'an dernier, seuls 17% des Turinois ont voté 5 étoiles.
Isabelle Labéry à Turin pour France Culture. Au Burkina Faso, le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 est arrivé à son terme. 84 personnes étaient sur le banc des accusés pour ce putsch qui avait fait 14 morts et près de 270 blessés. Après 18 mois d'audience, le tribunal militaire vient de rendre son verdict. Les peines vont de 3 à 20 ans de prison ferme, décision attendue et qui ne suscite pas l'unanimité, Fanny Noirot.
20 ans de prison ferme pour le général Gilbert Diendéré, considéré comme le cerveau de ce putsch. Il est reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. Un verdict excessif pour les avocats de la défense qui dénoncent un procès politique. Maître Maria Mireille Barry.
Le tribunal est souverain et peut ne pas du tout suivre les réquisitions du parquet. C'est ce qu'il a fait. Il a tenu compte simplement de lui, ses éléments d'appréciation. On ne dit pas clairement les choses, mais j'estime qu'il y a une main invisible sur certains actes qui ont été posés au cours de la procédure.
La plupart des accusés présents ce lundi ont été reconnus coupables. Une satisfaction pour les avocats de la partie civile, Maître Guy Hervé Cam.
Notre objectif n'était pas la vengeance. Notre objectif, c'était donc ce jugement, savoir qui a fait quoi. Aujourd'hui, nous le savons de la bouche même du tribunal et nous pensons que les victimes peuvent désormais reposer en paix.
Ces victimes sont, elles, partagées entre le soulagement d'une condamnation et le regret des peines jugées parfois trop clémentes. C'est le cas de Serge Bayala, blessé lors du putsch.
Et ils ont eu des convictions de coup d'État. Nous avons eu des convictions de nous opposer à un coup d'État. Nous ne les avons pas tués, mais qu'on nous tue. Et qu'en retour, on vient dire finalement tout est beau, félicitations, vous avez 20 ans et 10 ans. Je porte sur moi des séquelles à vie.
Les accusés disposent maintenant de 15 jours pour faire appel de la décision.
Fanny Noirot, notre correspondante au Burkina Faso. La deuxième compagnie aérienne française demande son placement en redressement judiciaire. Aigle Azur, spécialisée dans les liaisons entre la France et l'Algérie, est sous la tutelle d'un administrateur depuis mercredi dernier. Et aujourd'hui, la compagnie qui emploie 1150 salariés s'est déclarée en cessation de paiement. Elle demande son placement en redressement judiciaire dans l'espoir de trouver des repreneurs. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
Alors comment en est-on arrivé à une telle situation ?
Bien, cela fait 6 ans que la compagnie aérienne connaît des pertes financières ininterrompues, estimées à 50 millions d'euros. Les syndicats dénoncent à la fois le manque de soutien des actionnaires et des choix stratégiques venus détériorer une situation déjà fragile. Parmi les choix en question, ceux qui font l'identité même de la compagnie. Historiquement, le cœur de marché d'Aigle Azur, c'est le Maghreb, en particulier l'Algérie. La destination représente entre 50 et 60% de son activité avec civil desservie. Mais sous l'impulsion d'un nouvel actionnaire, le groupe chinois HNA, le PDG Franz Yvelin lance une nouvelle stratégie à son arrivée en septembre 2017. Il décide de s'orienter vers le long courrier et la compagnie ouvre des vols longue distance vers la Chine et le Brésil pour lesquels elle loue des appareils. Une stratégie qui ne dure pas. La liaison vers la Chine ouverte en septembre 2018 ferme au bout de 6 mois. Quant à celle vers le Brésil, elle devrait être arrêtée en octobre. Mais c'est à l'exploitation de nouvelles lignes moyen courrier en Europe que sont dues l'essentiel des pertes. Des lignes reliant Paris à Milan et Berlin ou encore Lyon à Nantes ont plombé les comptes. Début août, le PDG Franz Yvelin avait assuré qu'il restait 25 millions dans les caisses. L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire va permettre à la compagnie de maintenir son activité et à des repreneurs de formuler des offres d'ici la mi-septembre.
Catherine Pétillon, joie des retrouvailles mêlées d'appréhension. C'était la rentrée pour plus de 12 millions d'élèves aujourd'hui. Une rentrée un peu déroutante pour les élèves de première qui étreignent la réforme du lycée. La fin des séries remplacée par des enseignements de spécialité, mais aussi 40% de contrôle continu. Pour les jeunes lycéens qu'a rencontré Alexis Morel au lycée de Montdidier dans la Somme, c'est la plongée dans l'inconnu.
À Montdidier, on est bien lotis. Ce lycée rural propose 10 spécialités sur les 12 possibles. Talia a choisi la combinaison littérature, géopolitique et sciences économiques. Pour le reste, cette lycéenne de première est encore un peu perdue.
Comment ils vont être les emplois du temps par rapport au tronc commun et les différentes spécialités, on ne sait pas. Sur les épreuves du bac, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est à partir de la première.
Et t'en sais plus sur quand ça va être
Non, je sais pas.
Il faut dire qu'il y en a des changements, hein. La fin des séries, le contrôle continu et de tout nouveaux programmes. Et ça, ça veut dire de nouveaux manuels scolaires. Et ce n'est pas un détail pour Florence Kouakou, prof documentaliste.
On a reçu 160 exemplaires de manuels. Les éditeurs, ils ont reçu les programmes assez tard. Donc on a reçu les spécimens plus tard que d'habitude. La situation est encore plus délicate pour les professeurs de lycée professionnel qui commencent seulement maintenant à recevoir leurs spécimens. Donc qui n'ont pas encore pu choisir leur manuel pour l'année qui commence aujourd'hui. Si on change toutes les références de manuels scolaires, ça veut dire que les parents ont tout à acheter tout neuf. Ils ne peuvent pas les acheter d'occasion. Donc les parents s'inquiétaient d'avoir un coût de la rentrée qui explose.
Alors pour réduire ce coût, le lycée passe en partie au manuel numérique cette année.
Alexis Morel avec Arthur Gerbeau à la technique. Des parents inquiets et désemparés ont manifesté devant l'école primaire de Conques-sur-Orbiel, au-dessus de Carcassonne. La commune est située en aval de la mine d'or et d'arsenic de Salsigne, fermée en 2004, mais qui a légué des millions de tonnes de déchets toxiques, arsenic, soufre et autres métaux. Les terribles orages qui s'y sont abattus en octobre 2018 ont provoqué des ruissellements vers les cours d'eau. À Conques, les écoles dans le bas du village ont été inondées et si la maternelle a déménagé en zone inondable, ce n'est pas le cas des classes primaires. Des parents, dont Vanessa, mère de 2 enfants, soupçonnent un établissement pollué par l'arsenic.
On manque de considération, on nous manque de respect, on nous dit pas la vérité et c'est pas concevable. C'est juste pas possible de nous laisser comme ça, dans le flou, avec des taux aussi hauts sur des tout petits êtres, c'est pas possible. On voudrait des actions vraiment concrètes, c'est-à-dire une dépollution de Salsigne. Ça coûte cher, mais ils savent le faire pour d'autres parties de France. À Paris, Notre-Dame a été très vite dépolluée. Nous, c'est vrai, on est au sud de la France, mais il faut que... c'est pareil, ce sont nos enfants, il y a plus de 40 enfants contaminés, c'est inacceptable ce qui est en train de se passer.
Réponse de la préfecture de l'Aude à la mi-journée, les parents n'ont pas de raison de s'inquiéter. Elle souligne que toutes les précautions ont été prises pour cette école primaire, mais aussi pour les stades et crèches de la région, Stéphane Iglesis.
Dans le beau bureau du préfet, le secrétaire général a organisé une conférence de presse de crise avec le bureau de recherche géologique et minière, l'agence régionale de santé et évidemment lui-même qui admet du bout des lèvres un problème de communication, Claude Vaudine, secrétaire général de la préfecture de l'Aude.
Les revêtements de l'école de Conques-sur-Orbiel sont complètement imperméables et ont fait l'objet d'un nettoyage complet. Les salles de classe ont été nettoyées, mouillées, donc il n'y a aucun risque à l'intérieur. 2 bacs à fleurs qui ont été neutralisés. et puis également à proximité un parking, mais dont le maire avait déjà pris l'initiative de le faire recouvrir par un revêtement imperméable.
Quant à l'Agence régionale de santé, elle précise que les seuils retenus pour les enfants sont très bas. Xavier Krisner de l'ARS.
Le seuil de référence qui est déployé dans le cadre du dispositif de surveillance médicale est un taux d'imprégnation, ce n'est pas un taux de toxicité. Ce n'est pas parce qu'on est au-delà de 10 qu'on est prédictif d'une maladie. Il n'y a pas de cas aigu d'intoxication dans la vallée de l'Orbiel. Le profil des cancers dans la vallée de l'Orbiel n'est pas différent de celui qu'on peut retrouver sur le reste du territoire français.
Les services de l'État ont cette fois mis le paquet et promis que tous les rapports seraient consultables en toute transparence sur le site internet de la préfecture de l'Aube.
Stéphanie Iglesias à Carcassonne. Le projet de loi d'orientation des mobilités repasse devant les députés en seconde lecture. Le texte était examiné jusqu'à mercredi par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Environ 600 amendements ont été déposés, principalement par l'opposition. En juillet, députés et sénateurs n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur des questions de financement de la compétence mobilité au sein des intercommunalités. C'est donc l'Assemblée qui aura le dernier mot. Le texte fait aussi monter au créneau les associations de prévention routière qui s'opposent à un assouplissement des fameux 80 km/h sur les routes secondaires. Anne Fauquemberg.
Oui, c'est l'article 15bisB qui est contesté par les associations, disposition qui donne au président des conseils départementaux ou encore au maire la possibilité de relever de 10 km/h la vitesse sur ces routes secondaires, vitesse fixée à 80 km/h depuis juillet 2018, expérimentation menée par le gouvernement d'Édouard Philippe, prévue jusqu'en juillet 2020, près de 400 000 km concernés, expérimentation qui a été contestée par les Gilets jaunes notamment, mais qui a déjà donné des résultats dans un contexte d'augmentation des morts sur les routes. Chantal Perrichon est la présidente de la Ligue contre la violence routière, elle nous appelle depuis l'étranger.
Il y a eu plus de 200 vies qui ont été épargnées dans notre pays et plus de 200 personnes qui n'ont pas été touchées par un handicap lourd. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons à tout assouplissement de ce 80 km/h, quel que soit le département, tout simplement parce que ceux qui veulent changer cette mesure souhaitent passer à 90 km/h sur ce qu'on appelle de belles routes, de belles infrastructures, sauf qu'ils n'ont pas compris que ce sont les routes sur lesquelles se concentre le maximum d'accidents.
Avec son association, Chantal Perrichon est en train d'envoyer des lettres au préfet et à tous les élus locaux pour sensibiliser avec des cartes de géolocalisation des accidents mortels. La décision in fine sera entre les mains des conseils départementaux de sécurité routière. Les associations d'usagers pourront donc s'exprimer selon Jean-Marc Zouleli. Il est le député La République En Marche à l'origine de cette disposition. Il fallait tenir compte, selon lui, du mouvement d'opposition à cette mesure qui s'est traduite notamment par la destruction de centaines de radars.
C'est vrai qu'il y a eu une pression de par le dialogue qu'on a eu avec les Gilets jaunes. Mais vous savez, moi je suis sur le terrain et je suis au contact des élus et j'entends bien cette volonté de pouvoir choisir librement de ce qu'on va faire en termes de limitation de vitesse sur le territoire. Donc c'est plus une écoute des élus que plus une pression de la part des Gilets jaunes.
Des arguments qui restent toutefois difficilement entendables par la Ligue contre la violence routière dans sa missive aux élus. Chantal Perrichon les incite à se méfier du bon sens pour privilégier la connaissance scientifique, notamment la modélisation de Nielsen, une variation de la vitesse de 1%, s'accompagne dans tous les pays du monde d'une variation du nombre d'accidents de 2%, des accidents corporels de 3% et des accidents mortels de 4%.
La réforme de l'audiovisuel public a accumulé beaucoup de retard, mais elle se précise. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a démarré une série de réunions avec les professionnels du secteur. Il a notamment reçu ce matin les principaux dirigeants de chaînes de télévision et les Échos viennent de révéler plusieurs futurs assouplissements d'importance, Éric Chavroux.
À commencer par ce qui concerne la publicité, comme elle le demandait, les chaînes de télévision devraient pouvoir se lancer dans de la publicité géolocalisée, avec toutefois une période d'observation d'un an et certaines restrictions pour préserver la manne des radios et de la presse écrite. Autre nouveauté qui s'inscrirait dans le texte, de la publicité pour le cinéma, avec un quota pour les films français. Le cinéma, justement, aurait davantage droit de cité sur le petit écran, grâce à une programmation désormais possible tous les jours, de quoi permettre aux chaînes de tenter de rivaliser avec Netflix. Ces plateformes verraient d'ailleurs en amont leurs obligations d'investissement alignées sur celles des chaînes. Les discussions de ce matin ont également porté sur la régulation. La fusion de la Hadopi et du CSA se confirme, mais celle entre le CSA et l'ARCEP, le régulateur des télécoms, reste pour l'instant exclue. Enfin, toujours selon les Échos, le piratage en ligne se verrait de nouveau encadré, en particulier pour le sport. Rien de plus n'a filtré, en revanche, au sujet de l'avenir de la gouvernance de l'audiovisuel public. La fusion totale des entreprises, comme France Télévisions et Radio France, a déjà été rejetée. Et l'hypothèse d'une holding semble privilégiée. Cette réforme, lancée il y a plus d'un an, doit arriver en Conseil des ministres début novembre, avant d'être amendée au Parlement et d'entrer en vigueur normalement l'année prochaine.
À suivre. Merci Eric Chavroux. Demain mardi, le temps sera généralement ensoleillé, variable entre les Alpes du Sud et le Var, menaçant sur la Corse avec des averses orageuses. Les températures iront de 6 à 23 degrés. L'après-midi, 20 à 23 près de la Manche, 24 à 29 ailleurs, jusqu'à 30 à 33 dans le Sud-Est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.